République, le pouvoir judiciaire en France, avec Hervé Lehmann et Denis Salas. Puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Du fait de l'expérience totalitaire, on cite généralement cette phrase de Montesquieu pour mettre en garde contre les empiétements, les débordements et l'intempérance du pouvoir politique. Plusieurs affaires récentes, cependant, m'ont conduit à penser que c'est aujourd'hui l'hubris des juges ou de certains d'entre eux qui fragilise l'État régalien et met en péril la démocratie représentative. Cette inquiétude est-elle fondée? Pour le savoir, j'ai invité Hervé Lehmann, ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris, et Denis Salas, qui a été lui-même juge, et qui enseigne à l'École nationale de la magistrature. Je leur pose donc la question. Qu'il s'agisse de la hâte à mettre en examen François Fillon, candidat à l'élection présidentielle, de la lourde condamnation de Nicolas Sarkozy, ou de l'activisme des cours suprêmes, la justice en France remplit-elle son office ou sort-elle de ses gonds? Hervé Lehmann.
La première chose qu'il faut bien comprendre est que les gens souvent ne comprennent pas, les gens disent souvent la justice n'est pas indépendante. C'est que les juges en France, aujourd'hui, depuis on peut dire en tout cas une trentaine d'années, sont totalement indépendants. Ce n'est pas le vrai des magistrats du parquet. Alors c'est un peu compliqué, mais les procureurs, eux, ne sont pas pleinement indépendants, ce qui complique les choses. C'est pour ça qu'on hésite quelquefois quand on dit que la justice est indépendante ou pas. Mais les juges, eux, sont pleinement indépendants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément pour autant impartiaux. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas quelquefois dans des affaires, vous avez parlé de l'affaire Fillon, des procédés qui permettent de choisir le juge auquel on va confier l'affaire en fonction du résultat que l'on espère. C'est-à-dire que le mécanisme, tout cela est assez complexe finalement. Mais ce qui est important de bien comprendre d'abord, c'est que les juges sont indépendants et que depuis qu'ils ont acquis leur pleine indépendance, encore une fois, je dirais il y a une trentaine d'années, ça s'est fait au fond complètement sous Mitterrand et malgré Mitterrand, avec les affaires Sagesse, Urba, etc. Eh bien, comme ils ont l'indépendance, ils ont, comme tout pouvoir, tendance à étendre leur pouvoir le plus possible. Et nous arrivons effectivement aujourd'hui dans une situation où vous avez des juges qui viennent dire « mais en fait, je vais contrôler le gouvernement ». Nous l'avons vu dans l'affaire Buzyn, c'est-à-dire que, alors que l'épidémie n'était pas encore terminée, vous aviez déjà les juges d'instruction qui perquisitionnaient dans le ministère de la Santé, chez l'ancien Premier ministre, pour aller voir si, en fait, il n'y aurait pas eu des infractions dans la politique du gouvernement. Donc là, nous avons un problème de limite dans le champ dans lequel les juges doivent intervenir. Et pour définir cette limite, je pense qu'il faudra qu'on parle de la question de la légitimité. Qui est légitime à prendre les décisions politiques et qui n'est pas légitime à les prendre?
Oui, mais alors, vous dites le parquet n'est pas tout à fait indépendant. Il n'empêche qu'il peut lui-même manifester une certaine célérité à juger des politiques. Je parlais de l'affaire Fillon. Un article du Canard Enchaîné paraît sur François Fillon et le parquet national financier se saisit immédiatement de cette affaire et il confie l'information au juge Turner. Il attend même que le juge Turner soit de permanence parce qu'on en connaît l'extrême radicalité. Et on sait qu'avec lui, on peut être sûr que l'ancien Premier ministre sera mis en examen. Et or, on a vu là, quand même, des magistrats torpiller une grande échéance démocratique, puisque François Fillon n'a pas pu passer l'épreuve du second tour. Il a été mis en examen. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, en effet, Denis Salas, j'ai été amené à m'interroger sur cette forme de hubris judiciaire. Est-ce que j'ai eu raison de me poser la question, Denis Salas ?
Je ne suis pas persuadé que le mot d'hubris, si vous voulez, corresponde vraiment à la réalité historique du phénomène dont vous parlez. Par contre, je parlerai effectivement d'un pouvoir judiciaire de fait, actuellement, bien qu'il n'existe pas en droit constitutionnel.
Il oui, parce qu'on parle d'autorité judiciaire.
On parle d'autorité judiciaire et que c'est quelque part un impensé de la République d'avoir, en quelque sorte, évacué ce pouvoir. Il faut rappeler les étapes de l'avancée de ce pouvoir dans notre histoire récente. Et ça me semble très important. La première étape, c'est dans les années 50, quand le gaullisme est venu au pouvoir, il a en quelque sorte transformé profondément l'institution judiciaire et une nouvelle génération de magistrats, issus notamment de l'école de la magistrature, agglomérés dans des collectifs, notamment le syndicat de la magistrature, a révolutionné sociologiquement la profession. Et a mis de côté toute une série de magistrats de l'ancien monde, de notables, de gens dans une colonie, qui effectivement ont été dépassés par les événements et ont amené une nouvelle pratique judiciaire très importante qui ont installé la notion de procès équitable, notamment dans les prétoires. Première étape. Deuxième étape, vous en avez parlé, Hervé Lehmann, tout à l'heure, les années 90, avec l'émergence des affaires. Et là, ce sont les juges d'instruction, qui n'étaient pas toujours à l'époque des membres du syndicat de la magistrature, qui ont en quelque sorte décidé de s'emparer des affaires par eux-mêmes, contre le parquet, qui était à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque très largement lié à l'exécutif, et qui ont pu effectivement provoquer ce sentiment d'hubris judiciaire. Et la troisième étape la plus importante, à mon avis, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est les procureurs. Vous l'avez dit également, les procureurs, dans notre histoire politique, dans notre histoire judiciaire, ont toujours été des agents du gouvernement. Ont été toujours, Michel Foucault parlait de l'œil du pouvoir. C'était le regard du pouvoir dans l'institution judiciaire. Eh bien, il s'est passé que très progressivement, je dirais coutumièrement et formellement à partir de 2013 et 2014, les parquets se sont autonomisés, au moins fonctionnellement, en décidant, en prenant en quelque sorte leur plénitude de compétences dans les affaires individuelles. Le gouvernement garde la maîtrise de la politique générale du gouvernement et au niveau national, mais dans les affaires individuelles, le parquet est tout à fait autonome et, d'une certaine manière, a été reconnu dans une forme d'impartialité qui est une véritable révolution historique dans la mesure où ce phénomène n'avait jamais préalablement existé. Donc c'est ces trois étapes que je voulais effectivement mettre en perspective pour nuancer cet effet d'hubris que vous évoquez qui me semble venir beaucoup plus loin et s'installer aujourd'hui dans l'espace démocratique.
Mais alors, justement, la question que je voudrais approfondir parce que vous y avez fait référence l'un et l'autre, c'est celle de l'impartialité. L'indépendance est acquise pour les juges du siège, mais aussi un peu pour le parquet, vous l'avez dit. L'impartialité va-t-elle de pair avec l'indépendance ? Et là, je me réfère à un autre arrêt récent de la Cour d'appel visant Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Les condamnations sont très lourdes. 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Et la menace pour Nicolas Sarkozy, si jamais son appel à la Cour européenne des droits de l'homme ne fonctionnait pas, de porter l'ancien président de la République qu'il est, un bracelet électronique. On sait que Nicolas Sarkozy a eu des mots très durs sur les juges. Il projetait même une réforme de la justice qui les inquiétait beaucoup. Et on a l'impression quand même qu'il en paye le prix. Parce que de quoi s'agit-il ? Gilbert Azibert devait se renseigner sur l'état d'esprit des magistrats de la Cour de cassation, la chambre criminelle où il ne siégeait pas, c'est-à-dire et qui allait statuer sur la demande de Nicolas Sarkozy de récupérer des agendas saisis dans le cadre d'une affaire préalable. Il avait un moment, avec Thierry Herzog, semble-t-il, envisagé de recommander à la principauté de Monaco pour effectuer des vacations mensuelles payées 350 euros, Gilbert Azibert. il avait envisagé, dans des conversations privées, de clients à avocats qui ont été très longuement écoutés. Le service demandé à M. Azibert n'a même pas été esquissé, et la demande aussi auprès de Monaco n'a pas été effectuée. Donc on a érigé une velléité en forfait et même en crime. C'est stupéfiant. J'ai été très surpris d'ailleurs que le scandale n'ait pas été plus grand. C'est-à-dire comme si à gauche, on était content de ce qui arrivait à Sarkozy, alors que c'est en tant que justiciable, en tant que citoyen, qu'on devrait réagir. Aussi critique que l'on soit à l'égard du bilan politique de l'ancien président de la République, mais cela ne témoigne-t-il pas d'un manque d'impartialité de juges qui ont un autre agenda que celui que devrait leur fixer leur profession? Hervé Léman.
L'affaire Sarkozy, alors, on va plus dire deux mots sur l'affaire Fillon, parce que il y a des points communs entre les deux.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que dans les deux affaires, on a à la base le parquet national financier, qui a été créé par François Hollande, avec des belles visions de lutte contre la délinquance, la grande délinquance financière, mais qui en fait a surtout servi dans un premier temps à pourchasser les candidats de droite. C'est-à-dire que c'est grâce à l'action du parquet national financier que François Fillon d'abord, puis Nicolas Sarkozy ont été politiquement flingués. Donc c'était un des objectifs de la création du PNF, et il faut reconnaître que ça a drôlement bien fonctionné. J'ai décrit dans mon livre Le procès Fillon le mécanisme de l'affaire Fillon, où l'on voit que en fait tout tient entre une demi-douzaine de magistrats qui ont tous été nommés par François Hollande, et où on voit, et quand j'ai sorti mon livre, on a dit oh là là, complotisme, etc. Et puis deux ans après, la procureure nationale financière est venue dire devant la commission parlementaire que ce que j'avais dit était vrai, et c'est-à-dire qu'elle avait reçu des instructions pour faire en sorte que François Fillon soit mis en examen avant l'élection présidentielle, ce qui était le seul moyen de l'éliminer. Et il faut reconnaître que ça a très bien marché, et sans doute changé le cours de l'histoire de France, quand même. Parce que si nous avons Emmanuel Macron aujourd'hui plutôt que François Fillon, c'est parce que, grâce à ces mécanismes, où François Hollande est à la manœuvre, François Fillon a été mis en examen quelques semaines avant l'élection présidentielle. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, ça démarre un peu de la même manière. C'est-à-dire que le parquet national financier engage des procédures, que l'on va mettre sous écoute téléphonique pendant 8 mois. Un leader de l'opposition, ancien président de la République. Je crois qu'on a écouté, je ne sais plus combien, 3800 conversations. Dans quelle démocratie on met un leader de l'opposition sous écoute pendant 8 mois? Et puis ensuite, on va écouter les conversations avec son avocat. Dans quelle démocratie on écoute les conversations entre l'avocat et son client? Ça va faire un tel scandale à l'époque que la Conférence nationale des bâtonniers va demander à être reçue par le président de la République. C'est exceptionnel, c'est un événement dans l'histoire. Et bien tout ça est balayé parce que la chambre criminelle de la Cour de cassation va modifier sa jurisprudence pour l'affaire Sarkozy, et ça va aboutir effectivement à cette condamnation qui est en effet assez surprenante. Je veux dire que l'ancien garde des Sceaux socialiste, qui lui avait transmis un dossier à son ami Thierry Soler, a été condamné à un mois de prison avec sursis. Et Nicolas Sarkozy, qui a envisagé de faire des interventions qu'il n'a pas faites, pour que Gilbert Azibert fasse une démarche qu'il n'a pas faite, donc ça reste à l'état de projet, et condamné de façon très lourde, comme vous l'avez dit. Je dois reconnaître que c'est assez difficilement compréhensible, ce deux poids deux mesures est assez difficilement compréhensible. Je dirais quand même que il est clair, et je terminerai sur ce point là-dessus, qu'il y a une partie de la magistrature qui ne porte pas Nicolas Sarkozy dans son cœur. Pourquoi? D'une part parce que Nicolas Sarkozy a voulu supprimer les juges d'instruction, crime de lèse-majesté. Et d'autre part, parce que Nicolas Sarkozy avait mis en place les peines planchers, autre crime de lèse-majesté, puisque la peine plancher, 1, limite la liberté de choix du juge, et 2, augmente nécessairement les emprisonnements, ce qu'une partie des juges, on y reviendra j'imagine, ne veulent pas. Donc je ne dis pas bien sûr que la Cour d'appel a condamné lourdement Nicolas Sarkozy pour se venger, bien sûr que non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un climat, je dirais, qui fait que Nicolas Sarkozy a quand même fait l'objet d'un nombre de poursuites absolument hallucinantes. Il a quand même été mis sous géolocalisation pendant des mois dans une affaire de trafic de cocaïne, comme s'il était envisageable que Nicolas Sarkozy, parce qu'un jour il avait pris un avion qui ultérieurement a servi à transporter de la cocaïne, comme s'il était envisageable que Nicolas Sarkozy ait participé à un trafic de cocaïne. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un traitement absolument exceptionnel, et c'est évidemment pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure.
Denis Salas.
Oui, il y a une différence importante entre le procès Fillon et le procès Sarkozy. Vous évoquez la différentielle des peines, c'est que le procès Fillon était le procès la Cour de justice de la République a sanctionné dans un premier temps, effectivement, je pense plutôt au cas de Jean-Jacques Urvoas. C'est une juridiction composée de parlementaires. Donc c'est quand même majorité de parlementaires, notamment de la formation de jugement de manière écrasante. Les commissions d'instruction sont formées de juges, les cours de cassation, c'est vrai. Maintenant, sur l'affaire Sarkozy, j'ai pas du tout la même interprétation que vous. Je ne pense pas qu'il y ait une vengeance de la part des magistrats contre Nicolas Sarkozy. Certes, d'un point de vue de la polémique politique, la polémique syndicale, il y a eu des échanges extrêmement virulents contre Nicolas Sarkozy à l'époque, et c'était extrêmement tendu, je le reconnais. Mais dans l'espace judiciaire, c'est une autre affaire. C'est tout à fait différent. Ça se joue dans les règles du droit, dans le cadre d'un procès équitable, avec effectivement des avocats qui viennent effectivement porter des plaidoyers qui vont être tranchés par un juge. Donc ça me semble quand même là important. Maintenant, vous êtes choqué, Alain Finkielkraut, par le quantum des peines. J'ai regardé le jugement. Il y a 150 pages de jugement qui n'ont pas été totalement publiées par la presse, mais j'ai quand même pu le consulter. Il y a 3 ans de privation des droits civiques, qui me semble une mesure lourde, effectivement, pour Gilbert Azibert, pour Thierry Herzog et pour...
Interdiction d'exercer aussi pour Thierry Herzog. Ce qui ruine sa carrière.
Ouais. Ce qui porte un coup terrible, effectivement, à sa carrière. Et ce qui vous a choqué, c'est les 3 ans d'emprisonnement. Et alors, j'ai regardé le code pénal, parce que les juges, vous savez, se réfèrent au code pénal. Et le code pénal pour les pactes de corruption prévoit 10 ans.
Oui, bien sûr.
Pacte de corruption dans le droit pénal, il faut que l'intention, comme vous le savez, suffit à caractériser l'infraction. Et l'intention a été jugée par les juges suffisamment caractérisée par les écoutes téléphoniques qui ont été effectivement analysées comme cela et discutées d'ailleurs contradictoirement par les avocats. Donc les 10 ans n'ont pas été prononcés, donc c'est un repère pour les juges tout de même important.
Une peine indulgente, c'est ça
Et ensuite, du point de vue de la jurisprudence, je ne sais pas comment raisonner les juges, mais je pense que c'est un raisonnement qui a dû être fait. Ils ont regardé la jurisprudence, les cas semblables, et en fonction de la jurisprudence, ils ont individualisé la sanction qui a été prononcée en première instance et en appel par des juges différents dans les deux cas, et donc 2 débats contradictoires qui ont abouti à cette peine de 3 ans d'emprisonnement pour corruption et trafic d'influence. Je rappelle que dans ce procès-là, il y a eu des perquisitions à la Cour de cassation. On l'oublie, pour vérifier effectivement le délit de trafic d'influence qui était reproché à ce magistrat qui était avocat général à la Cour de
cassation.
Justement,
aucune demande n'a été effectuée auprès des magistrats de la Cour de cassation. Et il n'y a pas eu de demande aussi à Monaco. Donc, où est... Alors vous me dites l'intention, c'est une sorte de velléité. Corruption, quand même. Où est la corruption? Parce que ce qui était demandé à Gilbert Azibert, c'était de renseigner Nicolas Sarkozy sur cette histoire d'agenda. Il était pressé. On connaît l'impatience de l'ancien président de la République. Et à Monaco, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va y avoir un poste qui sera payé 350 € par mois. Mais le mot de corruption pour ces velléités, c'est même pas des intentions, c'est des velléités. Ça me paraît être un grand mot. Quand même.
Il faudra à ce moment-là changer la loi et supprimer la notion d'intention dans le délit qui était caractérisé comme tel, pas pour Nicolas Sarkozy en particulier, pour tous les cas semblables. Et les jurisprudences, d'ailleurs, confirment cette affirmation que l'intention suffit à caractériser le délit. Maintenant, je ne connais pas le détail de la jurisprudence qui était concernée, mais elle me semble... Le deuxième point très important que vous avez soulevé, c'est la relation entre l'avocat et son client, qui est un point fondamental. Cette affaire est en cassation actuellement. Je pense que ça va être un point discuté, débattu longuement par les membres de la chambre criminelle. Et on verra effectivement si les juges ont eu raison, parce que ce sera pas l'affaire qui sera jugée en cassation. Ce sera le jugement qui sera jugé à son tour par la chambre criminelle. Donc on verra à ce moment-là si effectivement ce débat sur le secret professionnel a lieu et s'il est tranché par la Cour de cassation. Donc ça me semble quand même là, l'affaire n'est pas terminée. J'ajoute que Nicolas Sarkozy se bat sur 2 fronts. Il se bat sur le front du procès lui-même, et aussi sur le front, sur la scène médiatique, puisqu'il défend, à juste titre, ses prérogatives, son honneur, n'est-ce pas, qu'il estime bafoué par cette décision. Donc ces deux fronts-là sont parallèles. Nous verrons si la justice, effectivement, arrive à faire la part des choses.
Oui, et souvenons-nous quand même qu'il y a eu une affaire d'écoute de l'Élysée. Mitterrand avait mis un certain nombre de journalistes ou d'adversaires politiques sur écoute. Et ça avait créé un scandale énorme, notamment parmi les journalistes, aujourd'hui, les plus acharnés dans les accusations contre Nicolas Sarkozy. Mais là, je voudrais vous citer Olivier Beau, un juriste dans la revue Commentaire, justement, sur cette dérive, parlons pas du Brice, sur cette dérive de certains juges. Il dit ceci, « Les gardiens des promesses se sont érigés en gardiens de la morale. Ils se sont assignés pour mission de nettoyer les écuries d'Augias. Un juge qui se prend pour Hercule, est-ce bien raisonnable ? Et ce type d'attitude, oui, n'est-il pas en train de se répandre dans la magistrature, Hervé Lément ?
Oui, on revient au problème de la légitimité. Quelle est la légitimité du juge ? Moi, j'ai été juge d'instruction dans ma jeunesse. J'ai pris des décisions lourdes. J'ai mis des gens en détention provisoire. Pourquoi ? Parce que j'avais réussi un concours. C'est pas la légitimité que j'avais. C'est pas parce que j'ai réussi un concours que j'avais le pouvoir de mettre des gens en prison. C'est parce que ma légitimité, c'était le respect de la loi. Ce qui est fondamental, c'est le respect de la loi. La légitimité du juge, c'est le respect de la loi. Et lorsque le juge s'éloigne de la loi, s'éloigne par exemple du principe selon lequel la loi pénale doit être interprétée de façon stricte, et où le juge va au contraire l'interpréter de façon large. Donc plus le juge s'écarte de la loi, plus il s'écarte de sa légitimité, et moins il est légitime à prendre des décisions. Et donc, je crois que le problème, effectivement, quand vous dites que le juge se prend pour Hercule, c'est-à-dire que vous avez certains juges, vous avez la position, on y viendra sans doute, du syndicat de la magistrature, qui est de dire, ben, quand la loi est injuste, eh ben, on ne la respecte pas. Donc ce n'est plus la loi que l'on applique, mais c'est la conception que le juge a du bien.
Vous voulez répondre à cela ?
Non, je pense que je suis d'accord pour dire que la légitimité du juge en démocratie est faible. Il n'est pas élu, il a été élu pendant 2 ou 3 ans à la période révolutionnaire. C'est un débat important du point de vue historique. On a beaucoup réfléchi s'il fallait donner au juge la possibilité d'être élu, mais ce n'a pas été le cas. Donc elle est faible. Donc c'est vrai que ce défi-là est important et du coup, effectivement, il doit démontrer, je dirais, dans chaque affaire, par son argumentation, par sa motivation, par la qualité du procès qu'il met en œuvre, par les épreuves qu'il traverse, il doit démontrer qu'il est à la hauteur de cette légitimité qui ne lui est pas donnée d'entrée de jeu par les élections.
Alors, quelle est la légitimité du juge ? Et vous avez parlé, Hervé Lément, du syndicat de la magistrature, auquel vous venez de consacrer un livre, « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire ». Et je voudrais vous lire un extrait de la harangue adressée en 1974 au jeune magistrat sortant de l'École nationale de magistrature par Oswald Baudot, qui était alors substitut du procureur de la République à Marseille. Écoutez bien. Soyez partiaux pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d'un côté. Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et la victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. C'est très intéressant parce que là, on voit une idéologie à l'œuvre. Et une idéologie, en effet, qui s'affranchit de la loi parce que elle pense que il y a un crime dont tous les crimes découlent. C'est l'inégalité, l'exploitation l'exclusion. Et c'est ce crime-là qu'il faut poursuivre. Et on le voit même aujourd'hui dans certains discours qu'on entend à propos des émeutes qui viennent d'éclater en France, après la mort d'un jeune homme abattu par un policier alors qu'il avait refusé d'obtempérer. Et on dit, bah oui, c'est normal, les gens se rebellent. Le crime est soit l'effet d'une cause qui est la société, soit une réponse à une violence sociale, une réponse à la domination. N'est-ce pas cette nouvelle légitimité qu'on tente à substituer à la loi elle-même, Hervé Léman ?
Oui, tout à fait, c'est exactement cela. C'est-à-dire que le syndicat de la magistrature est né d'un constat, enfin de plusieurs constats sur le fonctionnement de la justice, mais dans le domaine dont nous parlons là, un constat que la société est injuste, que c'est une société bourgeoise, qu'il y a les oppresseurs et les opprimés, et que donc le juge doit, dans chaque procès, rétablir la balance, donc appuyer un peu plus lourd sur le plateau de la balance du faible, par rapport au plateau de la balance du fort. Le problème par rapport à ça, c'est qu'on s'éloigne évidemment considérablement du principe de base de la justice. Le principe de base de la justice, c'est l'impartialité. Le juge doit être impartial. Or, si le juge arrive à l'audience en disant « j'ai un préjugé pour le voleur contre le policier ou pour l'ouvrier contre le patron », il n'est plus impartial. Alors, ce texte est extrêmement important. Ce n'est pas un texte qui émane du syndicat de la magistrature, mais c'est un texte qui correspond bien à la philosophie du syndicat de la magistrature. C'est un texte, je l'ai cité dans mon livre, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a été repris et repris à son compte par le président du syndicat de la magistrature il y a quelques années. Donc c'est pas un texte qui a été lancé comme ça pour rigoler, ça correspond à quelque chose de très profond. Hein. Et les deux autres points de la harangue, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais les deux autres points de la harangue sont aussi importants, c'est-à-dire ne vous cassez pas trop les pieds avec la loi, faites-lui dire ce que vous voulez. On revient à la question de la légitimité du juge par rapport à la loi. Et troisième point, mettez le moins possible de gens en prison. Voilà. Ça, ce sont les trois préceptes de la harangue de Bordeaux. Et au fond, ça correspond assez bien à la ligne du syndicat de la magistrature.
Alors, écoutez,
Denis Salas, vous êtes membre du syndicat de la magistrature.
Absolument, absolument.
Bon, alors.
En tout cas, adhérent. Non, je crois qu'il faut remettre les choses dans son contexte. On ne peut pas citer cette harangue, que d'ailleurs je pense que peu de magistrats aujourd'hui connaissent, notamment les jeunes magistrats, vous êtes un des rares à la mettre en lumière. Non, il faut la remettre dans son contexte parce qu'elle est issue des années 68, de la naissance de ce syndicat de la magistrature, à une époque où cet élan égalitaire et passionnel était extrêmement fort dans la volonté de rétablir l'égalité devant la loi. Maintenant, la question fondamentale, c'est le rapport à la loi que vous avez évoqué. Effectivement, on peut avoir un point de vue qui consiste à dire le juge doit obéir à la loi qui doit être sa référence ultime. Il n'a pas de marge d'interprétation. Il ne doit pas écouter ses émotions. Mais vous avez toute une tradition philosophique qu'on peut peut-être ici convoquer, issue notamment de David Hume, qui nous dit le juge doit aussi écouter ses sentiments. Il doit aussi entendre la réprobation sociale par rapport au crime pour bien juger. Et c'est quand même une question importante de pouvoir effectivement, pour juger en connaissance de cause, écouter les sentiments moraux qui peuvent s'exprimer dans une société. Maintenant, il faut, de ce point de vue-là, remettre les choses en contexte et remettre les choses dans le procès lui-même. Au sein du procès, le juge est impartial. Il est un tribunal indépendant et impartial. Il écoute l'une et l'autre partie d'une manière égale. Il doit lui aussi être dans cette relation d'égalité avec autrui, afin de cette manière-là de mettre à distance sa propre subjectivité pour pouvoir rester dans ce recul nécessaire, cette juste distance que Paul Ricoeur appelait de ses voeux. Moi, j'avais un magistrat qui a longtemps présidé les assises, qui me disait souvent l'impartialité, c'est des partialités successives. Il voulait dire par là qu'il fallait effectivement consacrer un temps d'écoute égal à l'un et à l'autre, pour pouvoir suffisamment se détacher de ses propres sentiments, pour pouvoir être en mesure de porter un jugement équitable. Et ça me semble un point capital.
Mais quand alors,
je crois que vous avez tout à fait
raison.
Vous avez tout à fait raison sur le principe. J'adhère tout à fait à ce que vous avez dit. Ma pratique d'avocat, parce que si j'étais juge d'instruction, je suis quand même avocat depuis plus de 30 ans. Ma pratique d'avocat, c'est que la grande majorité des magistrats sont effectivement impartiaux et ont cette démarche intellectuelle que vous décrivez. Mais très volontiers. Mais moi, je considère que nous avons une grande magistrature qui a beaucoup de qualités, de compétences, d'incorruptibilité. Enfin, voilà. Mais il y a la difficulté dont nous parlons aujourd'hui. Et il y a un certain nombre, oui. Et il y a un certain nombre de magistrats qui ne se montrent pas toujours impartiaux, pas forcément, pas forcément dans ce sens-là. Hein. Il y a un magistrat qui a été suspendu il y a peu de temps parce que il avait manifestement un comportement qui au contraire est
dénoncé par des avocats,
très répressif, c'est ça,
très répressif, exactement, qui ne respectait pas les droits de la défense, bien, voilà.
Lui aussi, mais justiciable de penser.
Je suis d'accord avec vous, mais la différence avec le syndicat de la magistrature, et je ne veux pas que vous le preniez mal, c'est que c'est un mouvement créé depuis 50 ans et qui milite pour cette direction d'une justice qui, Robert Badinter l'a dit lui-même, je l'ai cité dans mon livre, hein, un mouvement pour lequel la justice sociale est quelquefois plus importante que la justice au sens du droit.
Et puis, le syndicat de la magistrature s'est illustré il y a quelques années par le mur des cons. Le mur des cons, filmé par Clément Vélerénal, un journaliste vertois, qui a d'ailleurs été suspendu parce qu'il avait fait ce film. Et sur ce mur des cons figuraient des journalistes, Éric Zemmour, Béatrice Schoenberg, David Pujadas, Yves Tréhard, et également des écrivains, des hommes politiques, dont Nicolas Sarkozy, mais aussi deux pères de victimes, le général Philippe Schmitt, dont la fille a été tuée dans le RRD, et Jean-Pierre Escarfail, dont la fille a été violée et assassinée par Guy Georges parce que il se combattait pour la répression des crimes sexuels. Bon, ce mur des cons. Et il y a aussi autre chose là, qui quand même peut poser un problème. Le 3 juin dernier, le syndicat de la magistrature a publié sur son site ce qu'il appelle une contre-circulaire appelant à contourner les instructions du garde des Sceaux dans les affaires d'infraction commises durant les manifestations. Voilà. On est avec les manifestants, avec ceux qui se rebellent. Et la question, est-ce que ça va être le cas aussi pour tous les gens arrêtés pendant les émeutes? On a vu quand même des représentants de la France insoumise se rendre dans les commissariats pour voir si ces insurgés étaient bien traités. Alors, est-ce que cette prise de parti du syndicat de la magistrature ira jusque-là?
Non, je pense qu'il faut absolument distinguer deux choses totalement différentes. Le militantisme d'un côté et l'exercice professionnel de l'autre. Le syndicat de la magistrature est du côté du militantisme. Je rappelle d'ailleurs que dans l'affaire du mur des cons, vous le dites dans votre ouvrage, la présidente du syndicat a été condamnée par la justice pour injure. Donc il n'y a pas eu d'impunité de ce côté-là. Simplement, le militantisme est une chose, et la profession c'est autre chose. Le magistrat, comme tout citoyen, il a des idées politiques. Il peut effectivement militer dans un parti politique. Il peut adhérer à un syndicat. Il peut revendiquer telle ou telle amélioration des choses. On a vu récemment la tribune des 3000 où 9000, plusieurs milliers en tout cas de magistrats ont protesté contre les conditions de travail à juste titre. Vous avez vu que ça a eu quand même une portée puisque le garde des Sceaux a annoncé une hausse des postes en la matière. Donc c'est légitime, tout à fait légitime de reconnaître à ce syndicat et à d'autres syndicats, il y a une myriade de collectifs, de syndicats et d'associations dans le monde de la justice, cette légitimité à intervenir dans le débat public pour porter la cause d'une profession ou les causes qu'elle estime nécessaires pour qu'elle puisse effectivement être entendue. Ça, c'est une chose. Mais vous avez dans l'appareil judiciaire, dans le procès équitable, c'est pas du tout le même registre. Vous êtes en situation, vous avez une robe, vous avez un code pénal, vous êtes contrôlé par des avocats, vous êtes contrôlé par des cours d'appel et vous avez une éthique professionnelle, un ethos que j'enseigne avec d'autres à l'école de la magistrature. Et cette éthique-là, elle est sanctuarisée dans le procès et le militantisme n'y a pas nécessairement sa place parce qu'il y a aussi la collégialité qui effectivement et l'éthique personnelle qui permet effectivement d'avoir un contrepoids suffisant.
Oui, mais alors je pose une question d'abord Denis Salas, vous êtes adhérent au syndicat magistrature. Il y a l'affaire du mur des cons, il y a aussi cette contre-circulaire. Et j'ai envie de vous demander, pourquoi, avec tout ça, restez-vous adhérent? Et question subsidiaire, le juge a une éthique professionnelle à respecter, mais n'est-il pas aussi victime de son idéologie, dès lors que celle-ci lui apprend que derrière le crime, il faut chercher un autre crime, il faut chercher la domination. Si il pense ainsi, sa vision dans le procès particulier n'est-elle pas forcément biaisée?
C'est votre prisme.
Je me pose la question.
C'est une question que vous vous posez. Mais si vous ne distinguez pas ces deux plans, si vous les confondez en permanence, vous brouillez en quelque sorte la vision d'ensemble que j'essaie de clarifier autant que se peut. Et ce militantisme va très loin. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des magistratures autres que françaises, en Tunisie, en Égypte. Je vois que les collectifs, face à des atteintes aux libertés, les collectifs de magistrats en particulier, et même d'avocats, ont un rôle très important pour lutter contre les atteintes aux libertés et porter sur la place publique leur débat. Vous avez même, le militantisme va très loin, et la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît également, dans certains cas, le devoir de réserve, quand les atteintes aux libertés sont manifestes, devient un devoir d'indignation qui permet effectivement aux militants de s'exprimer. Donc, vous avez ces deux plans-là, l'une va très loin, et à juste titre dans certains cas, l'autre doit respecter effectivement le cadre du procès équitable qui s'impose à tout juge dans son éthique professionnelle. J'ajoute simplement une chose, vous avez dit tout à l'heure que c'était des jeunes juges sortant de l'école. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Vous avez 40% des magistrats en formation sont en reconversion professionnelle. Donc, ce n'est pas des juges qui ont un permis de juger à la sortie de l'université. Ils sont là, eux, effectivement. Mais d'autres professions sont très largement représentées, notamment celle d'avocat, qui permet effectivement d'avoir un corps judiciaire beaucoup plus homogène et plus représentatif aussi de la société tout entière.
Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point, mais ça ne leur donne pas plus de légitimité d'autre que celle du respect de la loi. Moi, je ne crois pas à la schizophrénie des gens, hein, et je ne crois pas à la schizophrénie des juges. Quand vous êtes militant, convaincu que la prison c'est mal, convaincu que l'immigration libre,
le syndicat n'a jamais dit ça.
C'est bien sûr que si le syndicat l'a dit. Le syndicat a appelé
dans les textes que vous citez peut-être, mais il y a beaucoup d'autres textes où la position des syndicats est plus réductionniste qu'abolitionniste.
Il y a un texte, une délibération d'un congrès du syndicat que je cite dans mon livre, qui appelle à la suppression de la prison, à la fin de la prison, et en effet,
c'était bien vos textes.
Et en effet, c'était texte du syndicat. Mais écoutez, mon livre est effectivement rempli de citations du syndicat de la magistrature. J'ai pas fait des interprétations.
Soigneusement choisi.
Écoutez, c'est le texte du syndicat de la magistrature. C'est pas moi qui.
Il y a des sensibilités différentes. Il n'y a pas qu'une version que vous citez comme étant canonique.
Non, mais quand c'est une délibération d'une assemblée générale annuelle du syndicat de la magistrature, je peux considérer que c'est
sans aucune contextualisation et sans référence.
Mais vous admettez vous-même en tout cas que le syndicat est sinon abolitionniste, en tout cas réductionniste. Donc disons que en tout cas quand vous êtes un juge qui est convaincu qu'il faut moins de prison et qu'il faut favoriser une immigration libre, cela a évidemment une influence sur la pratique professionnelle. Vous ne pouvez pas dire sérieusement que quand on a ces convictions-là, on les met de côté quand on entre dans la salle d'audience et qu'au moment où on va dire est-ce que je place cette personne en détention ou est-ce que je la place pas en détention, on oublie qu'on est réductionniste.
Pas du tout. Vous avez ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. L'éthos professionnel est là pour effectivement, quand vous êtes en situation de jugement contrôlé dans une audience publique, ne l'oublions pas, effectivement être en situation de poser un personnage public qui est le juge, qui est exposé au regard du public, au regard de ses contradicteurs éventuels, qui pourront effectivement le dénoncer si jamais il est partiel dans telle ou telle situation. Et vous avez vu que récemment, c'était le cas dans des affaires que vous avez citées, Alain Finkielkraut. Donc si vous voulez, là, le risque pour le juge de prendre position de manière excessive dans une audience peut être très très vite dénoncé récusé. Il peut se déporter lui-même ou être récusé.
Écoutez, en tout cas, ça ne se voit pas. Ce qui se voit effectivement, c'est des peines de prison de moins en moins appliquées, de moins en moins, alors de moins en moins prononcées, de moins en moins appliquées, et évidemment toute une jurisprudence qui est
Monsieur Léman, les prisons sont pleines, il y a 75 000 détenus aujourd'hui,
si vous voulez,
bien sûr. De moins en moins appliquées.
Oui, il y a 75 000 détenus et
on a une hypertrophie du carcéral aujourd'hui qui est considérable. On peut pas dire qu'ils sont pas exécutés.
Mais ce n'est pas exact. Il n'y a pas d'hypertrophie du carcéral en France. On manque de places de prison, effectivement. Emmanuel Macron avait promis d'en construire 15 000, il en a construit 2 000. C'est vrai qu'on manque de places de prison.
Sans compter que nous avons aussi 170 000 personnes sous main de justice, donc qui sont en milieu ouvert, pour lesquelles nous avons très, très peu de moyens. Ce sont des gens qui sont en quelque sorte sous main de justice, donc qui sont contrôlés par la maison pénitentiaire, et nous avons très peu de moyens pour préserver de la récidive.
Mais vous voyez, juste une phrase, ça confirme exactement ce que je dis. Vous êtes militant du syndicat de la magistrature et vous avez bien le droit, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous considérez qu'il ne faut pas mettre trop les gens en prison.
C'est ce que vous venez de dire. Non, je ne suis pas du tout abolitionniste.
C'est ce que vous venez de dire. Non, vous êtes réductionniste.
Je pense qu'il faut pondérer l'appel à la prison par le recours au milieu ouvert, donner des moyens au milieu ouvert, c'est-à-dire les personnes qui sont sous main de justice, pour effectivement lutter contre la récidive. Et nous savons aussi simplement une chose, c'est que les courtes peines de prison sont productrices de récidive et sont donc nocives du point de vue de la sécurité de la société.
Je ne sais pas s'il faut faire un lien entre immigration et délinquance ou tirer des conclusions de la population qui aujourd'hui est dans le milieu carcéral, mais je voudrais faire référence maintenant à la décision d'une des cours suprêmes, le Conseil constitutionnel. Alors, l'empilement des cours suprêmes est très très important, très significatif. Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme. Ça limite quand même le pouvoir des politiques. Et ça me rappelle cette phrase de Valéry, « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » En tout cas, le principe constitutionnel de fraternité a été invoqué pour interdire aux législateurs d'ériger en délit, dès lors qu'elle poursuit une fin désintéressée, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière. Donc ça veut dire que les différents gouvernements ont de plus en plus de mal à choisir une et à mettre en œuvre une politique migratoire. Ils sont un peu condamnés au laisser-faire, laisser-aller. Est-ce que ça ne traduit pas aussi une idéologie en vigueur dans la magistrature, et notamment cette invocation du principe de fraternité, parce que la fraternité, c'était entre citoyens. Et là, tout qu'un sou, c'est le lien à tous les hommes. Donc, les frontières sont archaïques, voire illégitimes, Denis Salas.
Vous voulez dire que les cours suprêmes aujourd'hui, au fond, gouvernent finalement, ou tendent à gouverner.
Elles surveillent. Elles ne gouvernent pas, mais elles rétrécissent le pouvoir des politiques.
Écoutez, nous avons vécu la période du terrorisme. Nous avons vécu la période de l'épidémie. Est-ce que dans ces deux cas, les cours de justice, les cours suprêmes et les autres ont entravé l'action de l'exécutif? Je ne le pense absolument pas. Le Conseil d'État a contrôlé de manière très, et le Conseil constitutionnel de manière assez minimale tout de même, l'action de l'exécutif. L'exécutif a une marge de manœuvre considérable pour gérer l'épidémie, même si aujourd'hui, certaines affaires sont en cours.
Il y a eu des perquisitions quand même.
A posteriori. Oui. Mais dans l'action elle-même.
Olivier Véran a été ministre de la Santé, il a été perquisitionné.
Mais bon, il y a eu des plaintes qui ont été déposées par la suite devant la Cour de justice. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans le droit lui-même, européen ou national, à aucun moment il est affirmé et formulé que les cours suprêmes doivent se transformer en gouvernement des juges. Au contraire, vous avez dans les textes internationaux et européens la volonté de laisser à l'exécutif la marge de manœuvre pour gouverner, de laisser une marge nationale d'appréciation. Et quand les événements mettre en péril la sécurité de la vie politique ou de la vie sociale, la possibilité de recourir à des mesures d'exception, l'état d'urgence notamment que nous avons connu, et sur lesquelles les juges n'ont pas apporté un contrôle qui a brimé, en quelque sorte, l'exécutif. Donc je pense que dans la situation d'urgence ou de confrontation au danger, le magistrat, les cours suprêmes européennes et nationales n'ont absolument pas empêché le pouvoir politique d'avoir les coudées franches pour agir de manière efficace.
Alors, je dirais que en matière d'immigration, il est clair que les gouvernements, le gouvernement français en tout cas, les gouvernements successifs ne peuvent pas mettre en place de politique de restriction d'immigration parce que les juges les en empêchent. L'épisode que vous venez de citer est le dernier épisode en la matière, mais vous avez eu avant un épisode extrêmement important où vous avez eu la Cour de justice de l'Union européenne reprise par la Cour de cassation qui ont interdit de pénaliser le séjour irrégulier en France. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un policier arrête quelqu'un dans la rue qui est en situation irrégulière, avant ces jurisprudences, on le mettait en garde à vue, on le poursuivait pour séjour irrégulier en France, il comparaissait devant le tribunal et il était expulsé. Aujourd'hui, quand on le contrôle, il est en situation irrégulière, on lui dit « Monsieur, il faudrait partir ». Et l'autre dit « Merci, monsieur l'agent, au revoir, monsieur l'agent ». Voilà. Donc ça, c'est une décision qui est une décision prise par des juges et pas par le législateur. Et la question, j'ai parlé de légitimité tout à l'heure. La question, c'est est-ce que la politique d'immigration d'un pays et de la France, c'est quand même aujourd'hui un problème qui n'est pas totalement absent dans les événements de ces jours-ci, hein, quand même. Il n'y a pas beaucoup de petits bretons d'origine dans les émeutes, là. Donc, c'est pas totalement neutre. C'est-à-dire qu'une immigration incontrôlée crée des situations qui sont ingérables. Hein, voilà. Vous avez les juges qui pensent le contraire. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le dialogue des juges, hein. C'est-à-dire la jurisprudence combinée des juridictions que vous avez citées tout à l'heure, que je ne vais pas reciter pour aller plus vite. Et ce dialogue des juges fait que systématiquement, lorsque le pouvoir politique, le pouvoir légitime, le pouvoir élu, prend des lois pour restreindre l'immigration, vous avez les juges qui vous disent « Non, ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire de contrôle du séjour irrégulier. Vous n'avez pas le droit de réprimer ceux qui aident les gens à venir en France de façon illégale. Vous n'avez pas le droit d'interdire le regroupement familial, etc. etc., etc. » Et ça, ce sont des décisions qui sont prises par des juges qui ne sont pas élus. Et donc je m'interroge sur la légitimité pour dire cela, alors que vous avez, j'en termine là-dessus, les sondages qui montrent que 74% des Français, dont la majorité des électeurs verts et LFI, pensent qu'il y a trop d'immigration en France.
Alors, Denis Salas.
Toujours la confusion entre ce qui peut être avancé d'un point de vue polémique ou militant et la réalité juridictionnelle. Je rappelle un chiffre simplement. Pour une juridiction que je connais un petit peu, la Cour nationale du droit d'asile, qui se prononce en France sur les demandes d'asile. Eh bien, la Cour de droit d'asile, tous les ans, se prononce en débat contradictoire devant des avocats et des interprètes sur les demandes d'asile. Eh bien, elle a accepté 20% seulement des demandes. 80% sont rejetées. Est-ce que vous
n'êtes pas expulsé? Mais pas expulsé.
Ça, c'est autre chose.
Mais parce que vous ne pouvez pas les expulser, parce que le système fait qu'on. Parce
je ne vous parle de la, la décision des juges. Oui, mais vous accusez les juges d'un parti pris.
Non, mais
au détriment d'une politique migratoire. Mais c'est l'inverse. Là, vous avez des juges qui, effectivement, en situation, refusent énormément de demandes d'asile, alors que c'est plaidé par des avocats. Et ensuite, effectivement, l'expulsion peut être prononcée. Qu'elle ne soit pas exécutée, ce n'est pas l'affaire de la justice. Reconnaissez-le. C'est l'affaire aussi de l'exécution des mesures par les...
Pourquoi vous pensez que c'est l'affaire de la justice?
Parce que derrière, vous avez des recours sur les décisions...
Vous contestez la possibilité de faire des recours?
Mais bien sûr que non, je conteste pas les décisions.
C'est l'état de droit, monsieur.
C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les freins qui ont été mis systématiquement par le dialogue des juges fait que concrètement, on est aujourd'hui dans une situation, le gouvernement est dans une situation aujourd'hui où il ne peut pas expulser les gens. Vous avez vu l'histoire des paillotes à Mayotte il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que vous avez la position des juges, ou c'est un juge, qui est ancien responsable du syndicat de magistrature d'ailleurs, qui a pris une décision s'opposant à ce que. Non, c'est pas bien de dire ça.
Derrière toute décision de justice, il y a effectivement un syndicat puissant qui pourrait effectivement ourdir les manipulations.
Ça, c'est pas bien de dire ça parce que.
De contester la démocratie.
Ça, c'est pas bien de dire ça parce que le mot de complot rejette l'autre dans le camp de.
Alors,
dans le camp du mal. Je vous ai pas parlé de complot, je vous ai parlé de conviction d'une partie des juges.
Voilà, alors
c'est pas la même chose.
Je termine simplement d'un mot. Je pense que nous avons une justice qui a le sentiment qu'il faut donner du droit dans un contexte de démocratie où la majorité a le pouvoir à partir du moment où elle est élue. Et le droit à avoir des droits, c'est quelque chose de fondamental pour les minorités, pour les femmes, pour les immigrés, pour tous ceux qui peuvent s'en prévaloir. Et la justice est là pour y répondre, je crois, avec le droit positif, avec les principes fondamentaux qui sont les siens, avec les ressources intellectuelles qu'on peut lui fournir. Et je pense que c'est une manière de rendre aussi la justice en démocratie qui est tout à fait nécessaire et souhaitable.
Merci beaucoup. J'aurais aimé continuer. J'aurais beaucoup de choses à dire encore. Je renvoie à votre livre, Hervé Léman, Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire, publié aux éditions du Cerf. Vous avez publié Denis Salas, Le déni du viol, essai de justice narrative chez Michanon. Et j'aurais voulu pouvoir parler avec vous de cette justice hors les murs, de ces tribunaux médiatiques qui concurrencent aujourd'hui les tribunaux judiciaires. Mais ce sera pour une autre fois. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Juliette Mouelic, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Jérôme Casamayou. Nous retrouverons cet été pour une série de rediffusions la semaine prochaine, André Dussolier, Sans dessus dessous, dans un instant Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.